À Rencontre spirituelle, aujourd'hui, il sera question, étant donné que c'est le 1er mai, c'est le mois de Marie, et nous pouvons nous poser la question qui nous est demandée, du moins assez souvent, est-ce que la dévotion mariale des catholiques, est-ce qu'elle n'est pas exagérée? C'est une question difficile, c'est une question qui mérite qu'on y réponde, je crois. Je m'inspire, encore une fois, de Pierre Découvement dans son guide des difficultés de la foi catholique, paru aux éditions du Cerf il y a quelques années, mais qui est toujours en vente dans les librairies. Pierre Découvement raconte qu'il y a, lorsque le pape Jean-Paul II avait 20 ans, eh bien, ce Karol Wojtyła était convaincu que la piété du peuple polonais envers la fameuse Notre-Dame de Częstochowa finissait par masquer l'attachement important, fondamental, essentiel au Christ. Or, on sait que l'attachement au Christ constitue évidemment la base de toute la vie chrétienne. On ne peut pas déloger le Christ pour y mettre la Sainte Vierge, c'est évident. Toute vie chrétienne, qu'elle soit catholique, orthodoxe ou protestante, doit être basée sur cet attachement au Christ. Et nous savons, grâce à des entretiens que le pape Jean-Paul II a accordé à André Frossard, vous connaissez ce livre, « N'ayez pas peur », qui s'est vendu à des millions d'exemplaires en toutes sortes de langues, on sait que la lecture qu'il a faite alors du traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, composé au 18e siècle par Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, a réconcilié Karol Wojtyła avec la dévotion mariale du peuple chrétien, particulièrement cette dévotion mariale que l'on retrouve chez les catholiques, évidemment. Et sa réconciliation à ce Polonais a été durable, puisqu'il a placé, quand il est devenu pape, en tous les cas, ou évêque, un grand M dans son blason pontifical, afin de proclamer, évidemment, avec ce M, la place qu'il veut donner, ou plutôt laisser, je dirais dire, ce serait plutôt mieux. Il ne la donne pas, il la laisse à Marie dans son ministère. Dans son ministère de pape. La place à laisser à Marie dans nos vies. Toute la question est là. Que nous le sachions ou non, que nous le voulions ou non, il faut bien ouvrir les yeux puis se rendre compte que Marie a été appelée à exercer un rôle de premier plan dans la réalisation de notre salut, de notre immense libération. C'est un rôle qui est loin d'être terminé, hein? Quand on a reçu la grâce de bien comprendre ce travail, pourrait-on dire, oui, ce travail, j'aurais pas d'autres mots, dont elle est chargée, bien, on a vraiment plus envie de se passer de ses services, hein. La meilleure manière, il me semble, de réconcilier avec la dévotion mariale de l'Église les chrétiens qui sont plus ou moins réticents, comme je l'ai été pendant un certain temps, c'est d'exposer le vrai rôle que Marie joue en ce moment même, dans l'épanouissement de chacun de nous, dans la vie du Christ. Oui, c'est toujours centré sur la vie du Christ et on n'en sort pas. Elle joue un rôle. Et voyons à quel point Marie est notre mère, pour mieux comprendre. Je vous lis tout d'abord quelques paroles de Thérèse de Lisieux. Pour commencer à entrevoir le rôle de Marie. Je reviens souvent à Thérèse de Lisieux ces jours-ci. On sait bien, dit Thérèse, que la Sainte Vierge est la reine du ciel et de la terre, mais elle est plus mère que reine. Donc, elle est plus mère que reine. Et elle ajoute, et il ne faut pas dire, à cause de ses prérogatives, qu'elle éclipse la gloire de tous les saints, comme le soleil à son lever fait disparaître les étoiles. Mon Dieu, que cela est étrange, ajoute-t-elle. Une mère qui fait disparaître la gloire de ses enfants. Dis-moi, je pense tout le contraire. Je crois qu'elle augmentera de beaucoup la splendeur des élus. C'est bien de parler de ses prérogatives, Mais il ne faut pas dire que cela. Et si dans un sermon on est obligé de, du commencement à la fin, de s'exclamer, de faire « Ah, on en a assez », ça va pas. C'est pas ça. Vous connaissez sans doute, pour comprendre la maternité de Marie, ce texte de Jean-Paul Sartre. Moi, je connais bien peu d'évocation plus forte du mystère de la confiance que celle qui a été écrite à la demande d'un père, un prêtre, puis qui a été écrite par un philosophe, Jean-Paul Sartre, qui se cachait pas son incroyance. Et c'était écrit ça en plein hiver 1940 dans un camp de prisonniers, un camp de concentration. C'était pour aider ceux qui étaient là enfermés à garder confiance au moment de Noël. C'est le père Boisselot, un dominicain, qui a obtenu de Jean-Paul Sartre, son compagnon de captivité, qu'il aide par cette page ses compagnons de misère. Je vous l'ai déjà lu, je vous le relis. Oh, il y a bien un an et demi, deux ans, je l'ai pas lu. Voici le texte de Jean-Paul Sartre. Comme c'est aujourd'hui Noël, vous avez le droit d'exiger qu'on vous montre la crèche. La voici. Voici donc la Vierge, et voici Joseph, et voici l'enfant Jésus. Mais écoutez, vous n'avez qu'à fermer les yeux. Je vous dirai comment je les vois au-dedans de moi. La Vierge est pâle et elle regarde l'enfant. Ce qu'il faudrait peindre sur son visage, c'est un émerveillement anxieux, qui n'est paru qu'une fois sur une figure humaine, car le Christ est son enfant. La chair de sa chair est le fruit de ses entrailles. Elle l'a porté 9 mois, et elle lui donnera le sein, et son lait deviendra le sang de Dieu. Et par moments, la tentation est si forte qu'elle oublie qu'il est Dieu. Elle le serre dans ses bras et elle dit « Mon petit, mon petit ». Mais à d'autres moments, elle demeure tout interdite. Et elle pense « Dieu est là ». Et toutes les mères sont ainsi arrêtées par moments devant ce fragment de leur chair qu'est leur enfant. Et alors elles se sentent en exil devant cette vie neuve qu'on a faite avec leur vie, et qu'habitent des pensées étrangères. Mais aucun enfant n'a été plus rapidement arraché à sa mère, car il est Dieu. Et il dépasse de tous côtés ce qu'elle peut imaginer. Donc, il y a d'autres moments, rapides et glissants, où elle sent à la fois que le Christ est son fils, son petit à elle, et qu'il est Dieu. Elle le regarde, et elle pense, « Ce Dieu est mon enfant, cette chair est ma chair, il est fait de moi, il a mes yeux, cette forme de sa bouche et la forme de la mienne. Il me ressemble, il est Dieu et il me ressemble. » Et aucune femme n'a eu de la sorte son Dieu pour elle seule, un Dieu tout petit, qu'on peut prendre dans ses bras et couvrir de baisers, un Dieu qui sourit, qui respire, un Dieu qu'on peut toucher et qui vit. Et c'est dans ces moments-là que je peindrais Marie si j'étais peintre. Et j'essaierais de rendre l'air de hardiesse tendre et de timidité avec lequel elle avance le doigt pour toucher la douce petite peau de cet enfant Dieu dont elle sent sur les genoux le poids tiède et qui lui sourit. Et voilà pour Jésus et pour la Vierge Marie. Et Joseph? Oh, Joseph, je ne le peindrai pas. Je ne montrerai qu'une ombre au fond de la grange et deux yeux brillants, car je ne sais que dire de Joseph, et Joseph ne sait que dire de lui-même. Il adore et il est heureux d'adorer. Et toute la vie de Joseph, j'imagine, sera pour apprendre à accepter. Joseph ne sait que dire de lui-même. Il adore et il est heureux d'adorer. Cette maternité de Marie, Jésus l'a proclamée à un moment solennel de sa vie, à l'heure de sa mort, avant de dire « Tout est achevé ». Il a voulu mettre un terme à son œuvre en nous donnant, comme maman, sa propre mère. Et c'est dans Saint Jean, chapitre 19, verset 27. « Hélas, combien de chrétiens font semblant d'ignorer les dernières paroles que Jésus a voulu ajouter à son testament quand il dit « Voici ta mère ». C'est pourtant à chacun de nous que le Christ ressuscité continue de dire chaque jour « Voici ta mère ». Ce don est d'une richesse immense. Comment ça? Pourquoi? L'importance de cette déclaration du Christ apparaît en pleine lumière si l'on prête attention à trois éléments du récit de l'Évangile. Cet échange entre Jésus, Marie et Saint Jean se trouve au centre des cinq scènes du calvaire. Entre la pancarte, le Jésus de Nazareth, roi des Juifs, la tunique sans couture, d'une part, et le cri « J'ai soif » et le coup de lance, d'autre part. Les termes employés par l'évangéliste Saint Jean sont ceux qu'il utilise par ailleurs quand il s'agit d'une proclamation solennelle. Jésus, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Mais on retrouve ce schéma, cette même façon de s'exprimer, de révélation. En d'autres passages du quatrième évangile, prenez l'exemple, Jean-Baptiste, voyant Jésus venir vers lui, dit, « Voici l'agneau de Dieu. » C'est le même schéma en d'autres endroits. Après avoir relaté donc ce don de Marie au disciple bien-aimé, parce que il n'a pas de frère ni de sœur pour prendre soin de sa mère, il donne sa mère à son meilleur ami. Alors l'évangéliste Saint Jean ajoute, après quoi, sachant que désormais tout était achevé. Autrement dit, pour que tout fût achevé, il fallait que Marie soit donnée comme mère à l'Église. Et le texte même de l'Évangile souligne ainsi l'importance de ce don suprême que Jésus nous fait à chacun de nous en nous offrant Marie comme mère. Quand je vous rappelle que Jésus, notre Maître, nous a donné Marie comme mère en la confiant à Saint Jean, qui représente l'Église, ça nous permet de comprendre que Marie est une mère qui ne cesse de nous aimer. C'est un sourire, dirait-on, tout proche de notre cœur d'enfant, que le sourire de la Sainte Vierge. Lorsque Marie vivait sur la terre, elle ne pouvait se trouver si en même temps à Nazareth et à Cana. Maintenant qu'elle est entrée pour toujours corps et âme dans la gloire du ciel, on peut dire qu'elle est complètement libérée des limitations de l'espace et du temps, puis elle est intimement présente à chacun d'entre nous, à tous les membres du corps mystique de Jésus. Il faut bien insister sur le fait que la vraie dévotion mariale, ça consiste pas d'abord à multiplier des Ave Maria. Des Ave Maria qu'on débobine à toute allure, sans respect pour elles. Non, ça consiste à prendre l'habitude de vivre sous le sourire de Marie. Mais elle n'a pas toujours le sourire. Elle pleure aussi. Le cardinal Martini, dont on parle comme futur pape, archevêque de Milan, jésuite, a écrit aux éditions Saint-Paul un tout petit livre, « Marie souffre encore ». C'est tout simple, c'est pas long, hein, 80 pages, un peu plus. Et c'est très beau, il y a de très très beaux passages. Pas toujours d'accord. Moi, je suis de l'esprit trop critique, mais c'est un beau livre que j'ai beaucoup aimé. Depuis son Assomption, le visage de Marie est transfiguré, évidemment. On peut dire que les yeux pleins de miséricorde de Marie, qu'elle ne cesse de poser sur nous, comme nous le lui chantons dans le Salve Regina, sont des yeux qui rayonnent d'un merveilleux sourire toujours. « Maman, on fait tout mieux quand on sait que tu es là. » Ce mot d'enfant illustre à sa manière ce que devient une vie chrétienne quand elle se laisse illuminer par ce sourire maternel. C'est ce sourire qu'ont entrevu Bernadette Soubirous à Lourdes en 1858 et aussi Thérèse Martin à Lisieux, souvenez-vous, c'était en 1883, 14 ans avant sa mort. Elle avait une dizaine d'années, quoi. Évidemment, ni l'une ni l'autre n'ont pu contempler toute la plénitude de la tendresse maternelle de Marie. Pas du tout. Si elle l'avait vue, elle en serait morte de bonheur. Ce n'est qu'au ciel que nous verrons enfin totalement de quel amour infini nous sommes aimés par Dieu. Et de quel amour extraordinaire nous sommes aimés aussi par la Vierge Marie et par tous les saints et saintes du paradis. Mais ces deux Françaises-là, Bernadette Soubirous puis Thérèse Martin, Thérèse de Lisieux, raison pour Jésus, si vous voulez, ont aperçu quelque chose du sourire de Marie, puis elles ont été bouleversées. C'est Bernadette qui disait, « Elle est si belle que lorsqu'on l'a vue, on voudrait mourir tout de suite pour aller la revoir. » Le 16 juillet 1858, en la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, le jour où la Vierge lui est apparue pour la dernière fois, Bernadette a été particulièrement frappée par le sourire que Marie lui a prodigué pour lui dire adieu. C'était terrible. Elle était frappée. C'est ce même sourire qui a bouleversé la petite Thérèse de Lisieux quand en 1883, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'année de ses 10 ans, là, le dimanche à Pentecôte, Marie est venue la guérir. Vous connaissez cette histoire, hein? On appelle désormais Vierge du Sourire, hein, la statue devant laquelle la petite Thérèse a eu cette extase dans la maison de sa famille au Buissonnet. Elle écrit, plus tard, tout à coup, la Sainte Vierge me parut belle, si belle, que jamais je n'avais rien vu de si beau. Son visage respirait une bonté et une tendresse ineffables, mais ce qui m'a pénétré jusqu'au fond de l'âme, c'est le sourire ravissant de la Sainte Vierge. Alors toutes mes peines s'évanouirent, deux grosses larmes jaillirent de mes paupières, écoulèrent silencieusement sur mes joues, mais c'étaient des larmes d'une joie sans mélange. Alors, il serait évidemment contraire à la pensée de Sainte Thérèse elle-même de désirer pour soi-même ce genre de manifestation plutôt exceptionnelle. Il y a d'ailleurs tellement de grands apôtres de Notre-Dame qui ont vécu intensément en présence de Marie puis qui n'ont jamais, jamais bénéficié d'apparitions de quelque façon que ce soit. Ces gens-là se contentaient de placer une image ou une icône, comme nous faisons, devant leurs yeux, là, pour se rappeler que dans leur vie, comme aux noces de Cana, Marie était là, simplement. Oui, avant même que nous lui adressions une petite prière, Marie ne cesse de dire à chacun d'entre nous, « Réjouis-toi, mon enfant, le Seigneur est avec toi, et ta maman est là. » C'est pas quétaine, c'est doux, c'est beau. Car Marie, c'est une icône de la tendresse de Dieu. Il y a une belle icône de la tendresse de Marie. L'attention portée à la présence de Marie, ça ne nous empêche absolument pas de penser à la présence de Dieu. Au contraire, elle nous remet toujours en ligne avec son Fils, avec son Père qui est notre Père, et avec l'Esprit Saint, avec lequel elle ne cesse de collaborer. L'esprit d'enfance vis-à-vis de notre Mère du Ciel ne peut que développer notre esprit d'enfance vis-à-vis du Père. Plus nous disons « Imma », c'est le vieux mot araméen, pour « maman ». Plus nous disons ça, Marie, là, plus nous devenons capables de dire « Abba », « Papa » à notre Père des cieux. C'est ce que nous confirment ceux qui le font. Avez-vous déjà essayé dans votre cœur de dire simplement comme ça, tout seul dans votre chambre, « Abba, papa ». On n'ose pas le faire en public devant d'autres, c'est gênant, là, je vous le dis comme ça en honte. Je me confie peut-être trop, mais c'est doux, c'est très doux. Il faut quand même reconnaître qu'à certaines époques, la dévotion mariale a été quelque peu faussée. Dieu était considéré comme un juge, assez difficile à approcher et à contenter. Tandis que la Vierge apparaissait, elle, comme la Mère de Miséricorde. Elle était l'avocate, elle nous défendait. Oh oui, elle était l'avocate des causes désespérées qui permettaient aux hommes puis aux femmes de s'approcher sans trop frémir du trône de ce Dieu plutôt malcommode. Pensez, quand la peste noire s'est abattue sur l'Europe au 14e siècle, avant la réforme protestante, 50 000 victimes à Paris, 25 000 à Tournai, en 1348... Il y a eu des pays où les chrétiens ont transformé de façon bien peu évangélique le thème iconographique, le thème où l'on représente la Sainte Vierge, la Vierge de merci, la Vierge de miséricorde, c'est ce que ça veut dire, qui enveloppe ses enfants de son grand manteau. Hein? Alors on s'est mis à représenter le manteau de Notre-Dame comme un abri sous lequel on allait tous se réfugier. Tous les chrétiens allaient là, pour se protéger de quoi? on pourrait dire des flèches empoisonnées envoyées par Dieu sur le monde pécheur. Quelle horreur, c'est épouvantable. La mère de Jésus qui nous protège de la méchanceté du Père de Jésus, et même au besoin de Jésus, on voit ça des fois. C'est insensé, ça devrait être brûlé ces textes. On comprend que la réforme protestante ait réagi contre un culte marial aussi aberrant et imbécile. Dans ce cas, ce ne serait plus la miséricorde de Dieu qui nous sauverait, hein, mais les mérites et les prières de la Vierge et qui nous préservent de la colère de Dieu. Absolument épouvantable. D'ailleurs, ce n'est pas seulement la bonté du Père qui a été quelque peu blessée et occultée, mais la miséricorde du Christ lui-même aussi, comme je viens de vous dire. Un oubli qui se manifeste dans la fresque, d'ailleurs, j'ai regardé la fresque du jugement dernier, peinte par Michel-Ange à la chapelle Sixtine. J'ai toujours trouvé ça pénible, moi. Le Christ y est représenté comme un juge terrible, immense, dont le bras vengeur la précipite sans sourcier les damnés en enfer, tandis que la Vierge à ses côtés, elle intercède en notre faveur, c'est elle qui est bonne. On oublie alors totalement que la Vierge n'est pas seule à plaider notre cause. Le Christ lui-même, tel un avocat, ne cesse d'intercéder pour nous. C'est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7. Alors non, je suis incapable d'accepter que la Vierge soit chargée d'adoucir Dieu, y compris son Fils. Elle est chargée de révéler l'amour de Dieu. Non, la Vierge n'est pas chargée d'adoucir Dieu, y compris son Fils. Mais elle est chargée de révéler Dieu dans toute sa bonté. D'ailleurs, comment pourrait-on imaginer Dieu terrible ou lointain? Alors qu'elle, Marie, elle l'a porté dans son sein. Oui, elle l'a couché sur sa poitrine pour lui donner son lait, comme je vous ai montré tout à l'heure dans ce beau texte de Jean-Paul Sartre. Elle l'a reçu sur ses genoux après qu'on l'ait eu descendu de la croix, hein? Pensez à cette magnifique œuvre d'art, l'une des plus belles de l'histoire de l'humanité, qui est au Vatican. Cette Pietà, comme on dit, Marie, avec le corps de Jésus sur ses genoux, de Léonard de Vinci. Et lorsque dans le Salve Regina, nous l'appelons Mater Misericordiae, mère de miséricorde, mère de bonté, quoi. Ça signifie pas qu'elle est une mère toute miséricordieuse par opposition à un Dieu qui serait un juge plein de sévérité. Voyons donc. Pleine de la miséricorde, elle l'a été au sens le plus littéral du terme, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'elle a porté dans son sein la miséricorde en personne. Dieu est amour. Elle l'a porté dans son sein. Elle a porté le sauveur des hommes. Elle a porté celui qui est tout amour. Mettons-nous bien ça dans la tête une fois pour toutes. Mettons-nous ça surtout dans le cœur. C'est André Manaranche, dans L'Esprit et la Femme au Seuil, éditions du Seuil, oh, c'est publié il y a longtemps ça, 25 ans. Il dit « Sa grâce toute féminine ne vient pas corriger les défauts d'un potentat masculin. Dieu n'est lui aussi que grâce. » Nul n'a de leçon à lui donner en la matière pour le ramener à de meilleurs sentiments. Un prêtre, André Manaranche, un grand auteur spirituel du 20e siècle. Vous savez que le dogme marial, hein, proclamé à Éphèse en 431, concerne cette maternité divine de Marie. Et un chrétien comme Newman, dont je vous ai déjà parlé, qui est venu de l'anglicanisme en Angleterre, a fini par accepter tous les autres privilèges de Marie mis en valeur par l'Église catholique, comme l'Immaculée Conception, l'Assomption corporelle de Marie dans la gloire du ciel. Et il a tout accepté ça. Il explique le tout, c'est de bien voir toutes les conséquences de cette vérité essentielle du credo, du « je crois en Dieu », là. Il est né de la Vierge Marie. C'est ce que dit cet ancien anglican, qui est devenu cardinal Newman. En annonçant que Dieu s'était incarné, les apôtres faisaient surgir une idée nouvelle, une sympathie nouvelle, une foi nouvelle. Mais quand, en outre, l'humanité a eu bien compris que ce Dieu incarné avait une mère, elle a vu jaillir de là une seconde source de pensée. inconnue auparavant, et tout à fait sans pareil, l'idée de la mère de Dieu est profondément distincte de celle du Dieu incarné Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'abaisse, et Marie, c'est une femme élevée entre toutes. De fait, pensons-y bien. Marie est le chef-d'œuvre de personne humaine que le genre humain ait à jamais produit. Jésus, en effet, tout en ayant une nature humaine, n'est pas une personne humaine comme Marie, mais la personne même du Fils de Dieu venu sur terre pour nous sauver. La nature humaine qu'il assume, lui, est masculine. Mais son moi le plus profond est la personne même du Verbe éternel, Fils du Père, laquelle est au-delà de toute distinction sexuelle. Pour tout chrétien, on peut donc littéralement dire que la personne humaine la plus agréable à Dieu, la mieux réussie, est celle d'une femme. Est-ce qu'on a bien compris ça? Une affirmation tranquille. Quand je dis ça, je suis très tranquille. Ça n'a pas été proclamé sous la poussée de quelques mouvements féministes à Éphèse en 431, ça. C'est une évidence dans le monde de la foi. Marie est donc une mère qui ne cesse d'enfanter ses enfants. Et Marie n'est pas seulement notre mère au sens affectif du mot. En nous aimant comme une mère et en souriant continuellement chacun de ses enfants, elle l'est effectivement. En ce sens qu'elle exerce envers nous une véritable maternité spirituelle. Elle nous enfante, quoi? Elle nous enfante continuellement à la vie divine. À nous de collaborer. En reprenant puis en synthétisant la pensée des siècles antérieurs, Louis-Marie Grignon de Montfort, le grand apôtre marial du 18e siècle, il lui ne cesse de répéter que nous sommes en Marie, que Marie est le moule vivant dans lequel Dieu veut diviniser ses enfants. C'est assez sympathique, je trouve, ce qu'il dit. C'est en elle que le Fils de Dieu est devenu un homme, il y a 2000 ans. C'est en elle que les hommes doivent devenir fils de Dieu. Or, continue Grignon de Montfort, le Christ et les chrétiens ne forment qu'un seul corps. Il est la tête et nous sommes les membres. Une affirmation qui revient plusieurs fois chez Paul, chez saint Paul, et que le Concile Vatican II s'est plu à rappeler plusieurs fois. Si donc, conclut-il, Grignon de Montfort, Marie a mis au monde le Christ, elle doit continuer mystérieusement à mettre au monde tous les membres de son corps ecclésial, son corps mystique. On voit ça dans le traité de la vraie dévotion, paragraphe 32. Voici comment le pape Jean-Paul II lui explique à André Frossard ce qu'il a découvert en lisant le traité de Grignon de Montfort. Il dit « Je me rappelle l'avoir porté longtemps sur moi. » Lui avait des difficultés avec le problème de la Sainte Vierge, là, quand il était Carole Wojtyła. « Je me rappelle l'avoir porté longtemps sur moi, même à l'usine de Soude, si bien que sa belle couverture était tachée de chaux. » Vous savez que le pape a été un ouvrier. « Je revenais sans cesse et tour à tour sur certains passages. Alors qu'auparavant, je me tenais en retrait de crainte que la dévotion mariale ne masque le Christ au lieu de lui céder le pas, j'ai compris, dit Carole Wojtyła, à la lumière du traité de Grignon de Montfort, qu'il en allait, en vérité, tout autrement. Notre relation intérieure à la Mère de Dieu résulte organiquement de notre lien au mystère du Christ. Il n'est donc pas question que l'un nous empêche de voir l'autre. Justement, il y a une belle prière à Notre-Dame de Chartres, qu'on récite lors du pèlerinage à Chartres. Ça résume tout ça. C'est trois lignes. Ô Vierge Immaculée, qui devait enfanter à la grâce et à la gloire tous les enfants de Dieu, daignez nous recevoir en votre sein maternel et nous former en vous pour que nous ressemblions à Jésus. Mais cette formation de nous en Marie, ça se fait par l'opération de l'Esprit-Saint. N'oublions jamais le rôle primordial de l'Esprit-Saint, fruit éternel de l'amour que le Père et le Fils se portent mutuellement, de toute éternité. Si Paul pouvait appeler les habitants de la ville de Corinthe, les Corinthiens, ses enfants, parce qu'il les avait engendrés dans le Christ, et s'il pouvait appeler les Galates ses petits-enfants, parce qu'ils les enfantaient à nouveau dans la douleur, dit-il, jusqu'à ce que le Christ soit formé en eux, eh bien, à plus forte raison, il me semble, que l'on doit dire que Marie enfante tous les jours les enfants de Dieu, jusqu'à ce que Jésus-Christ, son Fils, soit formé en eux dans la plénitude de son âge. Alors, quand Marie nous forme, elle forme le Christ en nous. Lorsque nous lui disons « Et bénis le fruit de tes entrailles », pensons que nous sommes, nous aussi, le fruit béni de ses entrailles maternelles. C'est une belle idée, ça. Elle se réjouit de voir grandir le Christ en nous. Hein? Elle y travaille, comment? En collaboration avec le Saint-Esprit, qui est le maître d'œuvre, je vous l'ai dit. Et voyons donc ce qui en est de la collaboratrice de l'Esprit-Saint. Mettons ça au clair. La naissance du Christ dans les âmes se fait par l'action de l'Esprit-Saint. Bon, c'est clair, fondamental. Je répète, la naissance du Christ dans les âmes se fait par l'action de l'Esprit-Saint. Dès notre baptême et tout au cours de notre vie, mais de toute éternité, Dieu a décidé que cette naissance s'accomplirait avec une collaboration de Marie. Elle a joué un rôle essentiel d'abord dans la naissance du Christ parmi nous, dans ce qu'on peut appeler l'humanisation de Dieu. Elle a été, l'éducatrice spécialisée du Verbe de Dieu dans son apprentissage, là, une façon de se conduire parmi les hommes. Vous direz, ça n'a pas de sens, bien oui, elle était sa mère. Elle a appris au Fils de Dieu à parler. Ben oui, elle lui a enseigné à dire « maman, papa ». C'est curieux, hein? Elle lui a enseigné à marcher. Elle le tenait là, par les mains, là, puis elle le faisait marcher pour qu'il coure vers Saint-Joseph. Elle lui apprend à prier même. Elle qui savait très bien prier. Elle a appris à la fournaise d'amour qu'il était, Jésus, fournaise d'amour, née de la fournaise d'amour, qui est Dieu notre Père. Eh bien, elle lui a appris à aimer avec un cœur d'homme. Douce Marie. Puis après s'être adjoint une telle collaboratrice, l'Esprit-Saint, il n'allait pas se priver de ses services en l'envoyant dans le ciel, en disant, bon, ben là, assis-toi dans le ciel, Marie, c'est fini. Non, non, il continue à utiliser tous ses talents pour former, dans la suite des siècles, tous les membres du corps ecclésial de Jésus que nous sommes. Après avoir travaillé à l'humanisation de Dieu il y a 2000 ans, Marie travaille à la divinisation des hommes depuis 2000 ans. Il est d'ailleurs assez symptomatique de repérer que nous retrouvons Marie à toutes les étapes importantes de ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance depuis 2000 ans. Hein. Chaque fois que, sous une action particulière de l'Esprit-Saint, le règne de Dieu s'installe un peu plus en ce monde. Pensez, mettons, à Nazareth, le Verbe se fait chair. À Cana, vous savez, ça a été détruit par les Israéliens, Cana, il n'en reste plus rien. Le Verbe manifeste sa gloire à ses disciples. Le calvaire, le Christ sauve le monde, et de son cœur transpercé coule une fontaine capable de laver le cœur de tous les hommes, hein? Tout cet amour. Puis le cénacle, vous savez ce que c'est, on va célébrer ça bientôt à la Pentecôte, et le cénacle, le Christ glorifié, répand son esprit sur l'Église, hein? C'est Saint-Maximilien Kolbe, le fameux père Kolbe qui a donné sa vie, aimait contempler l'union indissoluble entre l'Esprit Saint et Marie dans l'œuvre de notre salut. Il disait, c'est un assez beau texte, ça, « L'Esprit Saint forme les âmes à la ressemblance du premier-né, qui est évidemment Jésus, Dieu-homme, en l'Immaculé et par l'Immaculé. » Vous connaissez sa grande dévotion à l'Immaculé, Marie. Il ajoute l'union entre l'Immaculé et l'Esprit-Saint est si inexprimable, mais si parfaite, que l'Esprit-Saint agit uniquement par l'Immaculé, son épouse. Il s'avance très fort vers quelque chose où j'ai de la difficulté à le suivre, moi, personnellement. C'est vrai qu'on ne pense pas souvent à cette action de l'Esprit puis de Marie. C'est leur manière d'agir, cachée, silencieuse. C'est la façon maternelle. Sur les lèvres de Jésus, l'Esprit-Saint est d'ailleurs décrit sous des traits maternels. Hein? Il est la présence discrète qui nous empêche de rester orphelins après la Pentecôte. Il est chargé de consoler, d'où son titre de paraclet, hein, quand on parle de l'Esprit-Saint. Il est celui qui, à la maison, reprend la leçon du maître Jésus pour la remâcher, on pourrait dire, puis la rendre assimilable. On trouve ça dans Saint Jean, chapitre 14, verset 26. Oh, on peut se demander comment se propage en fait le royaume de Dieu. Il ne se propage pas seulement par la proclamation du message porté de bouche à oreille par les apôtres, par la diffusion de la parole pour ensemencer les âmes. Non, l'implantation de la semence suppose que le terrain soit bien préparé, qu'il soit apte à lui faire porter du fruit au centuple. Et c'est l'action conjointe, disent bien des auteurs qui aiment beaucoup Marie, c'est l'action conjointe de l'Esprit et de Marie qui assure cette préparation du terrain. C'est une action en profondeur, c'est une action silencieuse. Et nous allons voir tout à l'heure comment aborder le vrai sens de la consécration mariale. C'est pas facile, c'est un problème difficile, je vais l'aborder rapidement. Là, on peut aborder maintenant le problème de la consécration mariale. Vous avez déjà entendu parler de ça, des gens qui se consacrent à Marie. Il arrive qu'on fasse la consécration à Marie d'un bébé nouvellement baptisé. J'ai vu ça, j'ai un filleul comme ça qui a été baptisé par le père Sirard à l'église Notre-Dame-des-Neiges. Et après le baptême, il a amené le bébé vers la statue de la Vierge et l'a consacré. Alors, c'est à Grignon de Montfort que Jean-Paul II a emprunté sa devise. Vous la connaissez, la devise du pape. Totus tuus, ego sum, et omnia mea tua sunt. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis tout entier à toi, la Vierge Marie, et tout ce que j'ai t'appartient. C'est un extrait du traité, ça, de Grignon de Montfort. C'est la devise du pape. Une expression que Grignon de Montfort tient de Saint Bonaventure, quand même. Peut-être plusieurs siècles, hein? Mais qu'est-ce que ça signifie? Alors je résume, celui qui se consacre à Marie ne fait, en somme, que ratifier, reconnaître avec joie, quoi, sa situation objective dans le sein de Marie, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il reconnaît que Marie est chargée depuis toujours de veiller sur la croissance de Jésus en son cœur. C'est toujours centré sur le Christ. C'est sous sa protection maternelle qu'il pourra dire de plus en plus « C'est le Christ qui vit et règne en moi ». Il peut reprendre les paroles de saint Paul. Nous chantons souvent, on connaît ça, « Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre mère, nous te prions. » Or, lorsque les catholiques en particulier reprennent de tels refrains, souvent, ils réalisent pas toujours à quel point ce qu'ils chantent correspond à la réalité. Marie exerce envers eux une véritable activité maternelle. Toi, notre mère, nous te prions. Parce que Marie nous aime avec un cœur de mère et son sourire est vraiment tout proche de chacun d'entre nous et surtout, elle nous porte en elle, elle nous enfante, jusqu'à ce que le Christ soit formé en nous. Vivre sous le sourire de Marie, vivre en elle, ce sont les deux composantes d'une dévotion mariale authentique. C'est ça la dévotion mariale. Ça correspond au double rôle maternel que Dieu a demandé à Marie de jouer dans notre vie. On pourrait dire avec le père Découvement quel gaspillage d'énergie lorsque nous vaquons à nos occupations en oubliant ce don merveilleux que Jésus nous a fait au calvaire en nous donnant Marie pour mère. Vous raconte une petite histoire. Le 12 mai 1930, lors de sa première traversée de l'Atlantique en hydravion, c'était le premier Jean Mermoz à traverser l'Atlantique en hydravion. À un moment donné, il se trouve subitement aux prises avec une zone de l'océan qui est souvent obscurcie par des pluies torrentielles. C'était effrayant. C'est à ce moment précis qu'il a l'heureuse surprise de capter sur son radio un message télégraphique de sa mère. Il lit « Mon Dieu, mon Jean, je suis avec toi. Mon Jean, suis avec toi, ta maman. » Et tout ça, ça l'a calmé. Oui, dans toutes les tempêtes de notre existence, c'est souvent mouvementé, Marie est là comme à Cana. Et beaucoup de gens sont portés à laisser jaillir un « Je vous salue Marie » à ce moment-là. Ça m'arrive souvent. C'est comme spontané et naturel vis-à-vis notre mère. Ce n'est pas en faisant semblant d'oublier l'importance de son rôle que le rapprochement entre des chrétiens séparés, catholiques et protestants ou orthodoxes, se fera plus vite. Puisque Marie est au sens fort du terme mère de l'Église, mais la réconciliation œcuménique ne pourra se faire qu'avec elle et autour d'elle. Dans les familles, la mère contribue souvent et beaucoup à l'apaisement des conflits entre frères et sœurs. Il y a bien plus forte raison quand il s'agit des frères et des sœurs de Jésus, qu'il a lui-même confié à la garde de sa mère sur la croix. Catholiques, orthodoxes et protestants, nous avons tous la même mère et évidemment le même père. Je disais un jour à un protestant fameux de Montréal, « Comment pouvez-vous négliger Marie si je vous invitais chez moi et ma mère était là? Et vous ne la salueriez pas au salon? Vous contenteriez de me parler? Et là, vous viendriez à table manger la nourriture que nous avons préparée ma mère et moi, et vous ne la féliciteriez pas et vous n'y parleriez pas. Vous l'ignoreriez complètement. » Et nous quitterions la table, et là, nous parlerions encore au salon, et vous ne la regarderiez pas. Et à la fin, peut-être lui donneriez-vous la main sans mentionner une seule parole, sans dire « Je vous salue, madame ». Et vous partiriez comme ça, et vous seriez mon ami. Comment oseriez-vous faire ça? Ma mère. Ma mère. C'est ce que Jésus dit, ma mère, ma mère. C'est ce qu'il dit aux protestants qui ne veulent pas, certains d'entre eux, vénérer Marie. Ils trouvent que nous la vénérons trop. Vous savez, ce protestant auquel j'ai dit ça, c'est lui qui a trouvé le nom de Radio Ville-Marie. Parce qu'il avait changé d'avis. C'est Didier Decoin, ce fameux romancier contemporain que j'avais interviewé à Rencontre à la télévision et qui avait fait sensation. Il n'avait que 29 ans. Il venait de gagner le prix Goncourt. Eh bien, il y avait un prêtre qui l'a interviewé sur le chapelet, Jean Toula. Il lui dit, « Priez-vous, Marie, avec le chapelet ?» Puis il dit, Didier Decoin, qui est très un catholique extraordinaire, converti à 29 ans, il dit, « En toutes ses apparitions, elle a montré son estime pour cette prière. Pour moi, le chapelet, c'est une fête. » Beaucoup de catholiques l'ont délaissé, d'accord. On trouve que c'est une prière de perroquet. Oh, moi-même, au début, je comptabilisais d'interminables chaînes d'Ave, Ave Maria, Ave Maria, vite, vite, bâclées. L'essentiel étant qu'il y en ait beaucoup, hein. Et je croyais Marie sensible à la grosseur du bouquet, alors que c'est la fraîcheur des fleurs qui la fait sourire. Alors, loin d'être une prière infantile, le chapelet, dit Didier Decoin, est une forme de raison très délicate, très complexe. Il me fait penser à l'ordinateur, tout dépend du programme qu'on y insère. Il n'y a rien à attendre sinon lassitude et dégoût d'un chapelet marmonné, où le seul effort mental consiste à compter les petits grains puis à se dire « Plus que trois, hein, plus que deux, et plus qu'un, puis enfin c'est terminé, ouf !» Mais c'est un autre monde que celui du chapelet médité, où le récitant fait tourner la rosace des mystères de Marie. Ce chapelet-là n'est pas un chapelet par cœur, c'est un chapelet de cœur à cœur. On peut s'épanouir dans la contemplation. Et Didier Decoin ajoute en terminant « Oh, pas toujours !» C'est même plutôt rare, mais il suffit d'une fois pour comprendre à quel point il est inestimable. On ne peut pas parler à Marie en lui disant, « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » Cela n'a pas de sens. On n'a pas le droit. Moi, ça me fait de la peine quand j'entends des choses comme ça. Il faut lui parler comme à une mère, à la mère de notre Dieu. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Pourquoi pas? C'est si simple. Pouvez-vous procurer un beau livre, Évangile de la vie, le rosaire mis en neuvaine, qui vient de paraître aux éditions Médiapôle. Évangile de la vie, le rosaire mis en neuvaine, c'est très beau, par Joseph Houzé. On peut même méditer un livre de Martin Luther, je vous en ai parlé l'autre jour, le Magnificat, paru chez Nouvelle Cité, les grandes éditions catholiques. C'est surprenant ce que ce Luther a écrit, des pages magnifiques sur le Magnificat. Vous pouvez lire aussi de Tonino Bello, un évêque italien, « Marie, femme de nos jours ». Avec une préface de René Coste, c'est au chez Mediapol. Ça va paraître dans quelques jours. Puis on vient de rééditer aussi le beau livre de Hans-Urs von Balthasar, Marie, première église, chez Mediapol. Très beau livre. Oh, il y a tellement de livres sur Marie. Tellement de livres. C'est absolument bouleversant tout ce qu'il y a. On n'en finit plus. On n'en finit plus. C'est incroyable. Incroyable tout ce qu'il y a. Oui, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.